Donc dimanche dernier, Jonathan a parlé des 17 premiers versets de chapitre 1, Évangile de Matthieu. Et puis donc dans cette suite, on va nous voir les versets 18 à 25 avec l'annonciation à Joseph de la venue de Christ. Mais avant d'aller dans le détail du texte, je vous propose de juste voir quelques petits détails de contexte. Matthieu, dans son évangile, dans le global, son objectif principal, c'est de convaincre les Juifs que Jésus est bien le Messie qu'il devait venir. Et il le fait au travers de diverses choses dans l'évangile, et entre autres, en remettant bien en avant les prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissent, et puis déjà rien que dans la généalogie de Christ. Et je reviens quelques instants dessus. L'objectif, donc, est de mettre en avant cette filiation, non pas de sang, mais la filiation légale de Jésus. Joseph n'est pas le père de Jésus. Il est son père adoptif. Mais on voit que dans toute la première partie, Matthieu commence déjà avec cette idée de mettre en avant cela. Fils de David, égal héritier de la royauté, fils d'Abraham, père du peuple d'Israël. Et dans le premier verset, Matthieu met déjà cela en avant. Fils de David, fils d'Abraham, et après il commence la généalogie à partir d'Abraham. Donc il y a vraiment cette volonté de mettre non pas la filiation du sang, mais la filiation légale de Jésus en avant, pour bien démontrer que Jésus est de lignée royale. Ensuite, dans les versets 2 à 17, voilà, Jonathan vous en a parlé la semaine dernière, il fait cette généalogie avec la petite différence, on voit dans tous les versets un tel fils de, un tel fils de. Et puis au verset 16, on arrive et Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Il y a cette petite subtilité-là, c'est le père adoptif, c'est pas le père légal. Mais l'objectif est vraiment de mettre dans cette lignée royale Jésus. Et puis, alors je ne sais pas si vous en avez parlé, mais moi, cette généalogie, les généalogies, en général, c'est plutôt barbant. Hein, si vous lisez dans les chroniques ou des choses comme ça, c'est plutôt barbant. Mais si vous regardez cette généalogie de Jésus, elle est extraordinaire. 5 femmes y apparaissent. Je ne suis pas féministe, hein, mais il y a 5 femmes qui apparaissent dans cette généalogie. Tamar, belle-fille de Judas avec qui il a eu un enfant. Oups. Rahab, une prostituée, dans la lignée de Christ. Ruth, une Moabite, peuple ennemi de Dieu. Bathsheba, adultère avec David. Waouh, ça c'est la lignée de Christ. Et pourtant, c'est non seulement des femmes soit étrangères, soit avec il y a eu des gros problèmes, et elles sont là, elles sont citées. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que ça nous montre que Dieu est grâce. Dieu nous montre sa grâce et montre la grâce envers tous les peuples. Parce que c'est au travers de divers peuples étrangers et ce n'est pas que au travers de Israël que le salut est venu jusqu'à nous. Il y a déjà cette ouverture dans l'histoire du salut. C'était juste une petite parenthèse, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours frappé dans cette généalogie. Donc, vous la lirez peut-être différemment à l'avenir. Revenons à notre texte. Je vous propose de lire les versets 18 à 25, donc de chapitre 1, l'évangile de Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Dans ce verset 18, Matthieu est assez direct et clair. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Boum. En fait, il expose simplement des faits, comme une chose évidente pour tous. Ben oui, c'est tous les jours qu'on apprend qu'une femme est tombée enceinte grâce au Saint-Esprit, forcément. Mais pour lui, c'est tellement une évidence, c'est tellement des faits qui se sont passés, qu'il ne prend pas le temps d'enjoliver la chose. Si c'était une fable, vous connaissez les contes et légendes, hein, vous avez déjà lu des histoires de contes et légendes. Il y a toujours un énorme enrobage autour de ce qui va se passer, des trucs incroyables et improbables. Là, ce n'est pas le cas. Matthieu est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il dit. Voilà un fait. Marie est devenue enceinte grâce au Saint-Esprit. Boum. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est déjà assez fort dans ce texte. Pour lui, c'est vraiment une réalité. Et qu'est-ce qui est important dans ce qu'il dit là? C'est qu'elle est enceinte par l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu d'action humaine. Donc ça vient vraiment de Dieu. Et les précisions utiles qu'il donne, ben c'est ça. Ils étaient fiancés, il n'y avait pas eu de relation entre eux, mais Marie était enceinte. Contrairement, par exemple, à l'histoire de Jean-Baptiste, où il y a eu intervention de Dieu, mais il y a quand même une relation entre les parents. Ce verset donc 18 introduit la suite avec cette naissance extraordinaire de Jésus, cette arrivée extraordinaire de Jésus. Et en fait, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment très court. Hein. C'est 8 versets ce qu'on vient de lire. 8 versets pour raconter une des choses les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Mais Matthieu est très direct, très, il va, comment on dit en anglais, straight to the point. Alors après avoir posé le décor, Matthieu se concentre sur Joseph, et c'est sur cette annonce à Joseph, qui apprend que Marie, sa fiancée, est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Waouh ! À cette époque, les fiançailles, c'était un peu différent qu'aujourd'hui, les fiançailles avaient valeur de mariage, quasiment. Dans le peuple juif, quand un couple était fiancé, il y avait une cérémonie pour les fiançailles, et puis il y avait à peu près un an de test, et après il y avait la cérémonie officielle de mariage. Mais si des fiançailles étaient rompues, c'était les mêmes règles que pour un divorce. Exactement les mêmes règles que si c'était un couple marié. Et la règle dans ce cas-là, si vous lisez Deutéronome, Deutéronome 22-23, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, ils seront punis de mort. Oups. C'est ça qui devait se produire, normalement, dans ce cas-là. Marie est enceinte. sans avoir été avec son futur mari. Adultère, évidence. Alors, à l'époque de Jésus, de cette histoire, c'était plutôt Deutéronome 24 qui était mis en avant, donc plutôt le divorce. Mais quand même, c'est lapidation normalement. D'où, derrière, l'attitude de Joseph, qui, selon le texte, nous dit que c'était un homme juste, qui ne veut pas exposer Marie au déshonneur, donc qui propose de rompre secrètement, afin de ne pas la mettre en danger. Ce danger de mort qui est là, selon la loi. Cela relève et révèle un peu ce côté d'homme juste. D'après les commentateurs, homme juste, ça voudrait dire que c'était un homme qui était respectueux de Dieu et de la loi. Mais là, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Il ne veut pas l'exposer au déshonneur, elle, et par conséquent aussi toute sa famille. Et puis, quand l'ange lui annonce par la suite qu'elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il réfléchit à cela, il est en train de se poser des questions. Si lui l'a appris, probablement d'autres l'ont appris aussi. Je ne pense pas que c'est resté secret complet. Donc Joseph se retrouve dans une situation assez difficile. Et puis voilà qu'un ange lui apparaît. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve. Cette histoire, elle devait le travailler, vraiment, entre guillemets, jour et nuit. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous avez des ennuis, et tout d'un coup, au milieu de la nuit, vous vous réveillez en pleine réflexion. Moi, ça m'arrive tout le temps pour le travail. Des fois, je me réveille avec des solutions, mais ce n'est pas toujours. Mais ça me travaille, même la nuit. Et là, Joseph, cette histoire-là, ça ne devait pas le laisser tranquille. Et voilà que pendant la nuit, dans un rêve, un ange vient lui parler. Et encore une fois, l'explication est très sobre, très simple. C'est pourtant pas tous les jours qu'on a un ange qui vient nous parler. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça arrive encore aujourd'hui. Ça arrive encore aujourd'hui. J'ai entendu le témoignage d'un ex-imam qui, pendant un rêve, a vu un Coran en train de brûler. Et ça l'a tellement interpellé qu'il s'est posé plein de questions. Et pour finir, il a trouvé Dieu au travers d'un rêve. Donc ça arrive encore aujourd'hui. Dieu utilise des rêves ou des songes, ou des fois des anges, on ne le sait pas. Des fois, on croise des anges, il y a des choses qui nous arrivent, on se dit, mais waouh, attends, il y a un truc pas normal, là. Et après, on se dit, ah ouais, peut-être que Dieu était à l'œuvre, là. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ça faisait déjà plus de 400 ans qu'il n'y avait plus de prophète, que Dieu n'avait plus parlé à son peuple. Et Joseph se fait interpeller dans un songe par un ange. Il y a une petite différence aussi entre ce qui se passe avec Joseph et ce qui se passe avec Marie. Joseph, lui, c'est dans un songe, pendant la nuit, Marie, elle a un ange qui vient la rencontrer. La différence, elle est peut-être sur l'importance de la chose. Enfin, il fallait bien qu'un ange vienne en personne lui annoncer qu'elle allait être enceinte. C'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Tu vas être enceinte par l'action de Dieu. Waouh ! Mais comment c'est possible ? Pour Joseph, c'est un peu différent, même si l'enjeu est très important. Et quel est l'enjeu, là ? L'enjeu, c'est que Joseph accepte ce rôle de père adoptif qui lui est confié. C'est important qu'il l'accepte, justement parce qu'il y a cette notion de lignée légale de Jésus. Descendance légale liée au roi David. Le roi qui a reçu la promesse qu'il aurait dans sa descendance le Messie. Et c'est très important à ce moment-là que Joseph comprenne cela, qu'il doit accepter ce que Dieu lui confie comme charge. Et comme je disais tout à l'heure, quant à savoir ce qu'il comprend par l'Esprit Saint, probablement que Joseph se fait référence à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu apparaît à plusieurs reprises. Déjà dans Genèse chapitre 1, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on voit que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Donc pour Joseph, ça doit résonner quand même quelque chose. Mais la notion du Saint-Esprit, comme nous on la comprend, probablement qu'il ne la comprenait pas. Probablement qu'il ne la comprenait pas. La notion du Saint-Esprit, comme nous on la comprend, c'est après la Pentecôte. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est ? N'empêche que il semble avoir compris. Une chose aussi intéressante dans ce qui est fait dans cette annonce, c'est l'ange en train de dire « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Ça paraît anodin, pour nous ça paraît une évidence, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte messianique. Les Juifs attendaient un sauveur, mais pas ce type de sauveur. Les Juifs attendaient un sauveur qui viendrait les libérer des oppresseurs, des autres peuples, des Romains, là en l'occurrence, puisqu'ils étaient sous l'oppression romaine, occupation romaine. Mais c'était ce type-là de sauveur qu'ils attendaient. Ce n'était pas du tout un sauveur qui sauve des péchés. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est probablement aussi pour cela qu'il y a eu plein d'incompréhensions par la suite dans le ministère de Jésus. Parce qu'ils avaient une autre attente. Le Messie qu'ils voulaient, eux, ce n'était pas celui-là. Parce que reconnaître ses péchés, ça faisait partie d'eux, mais ce n'était pas le principal. Être sauvé de ses péchés, oui, bon, ben ok. Mais non, nous, on veut être sauvé de l'oppresseur, on veut être sauvé de l'envahisseur, on veut être sauvé de tous ces peuples qui, au fil des siècles, nous ont envahis. Un texte assez significatif sur ce sujet, c'est les disciples d'Emmaüs. En Luc 24, je vous lis quelques versets. Donc Jésus, après la résurrection, va rencontrer deux hommes, deux disciples en train de marcher et quitter Jérusalem. Il les interroge. Au verset 18, l'un d'eux, un dénommé Clopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Les disciples de Jésus attendaient ce type de salut et pas du tout la notion de réconciliation avec Dieu ou de libération du péché. Dans les versets suivants, les versets 22 et 23 de notre texte de ce matin, Matthieu fait une espèce de parenthèse historique. Il nous explique l'accomplissement, un des premiers accomplissements d'une promesse de l'Ancien Testament. Il cite Ésaïe 7,14. « La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Cette prophétie, à la base, elle est faite au roi Achaz, ou Akaz, roi considéré comme l'un des pires rois d'Israël, un des plus méchants, un des plus mauvais rois d'Israël. Et c'est important de lire l'ensemble du texte dans Ésaïe et de cette prophétie. Verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de l'écaillé de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Dans le contexte de cette prophétie, au départ, eh bien, Achaz, il a peur de deux rois qui semblent vouloir envahir Israël. Et il reçoit cette prophétie que, voilà, il y a un enfant qui va arriver, et qu'avant que cet enfant ne soit suffisamment mature pour comprendre la différence entre le bien et le mal, on ne parlera même plus de ces deux rois. Et ça s'est effectivement passé, puisque probablement qu'à ce moment-là, Ésaü a eu un fils, et avant qu'il n'atteigne l'âge de 3 ans, les deux rois qui voulaient envahir Israël, ils ont disparu, ils étaient décédés. Ça, c'est le contexte immédiat de la prophétie. Et puis pour nous, aujourd'hui, elle a un autre sens, puisqu'elle prend tout son sens. La jeune fille vierge enfantera un fils qui sauvera son peuple. C'est l'accomplissement final de cette prophétie qui a été faite 700 ans avant la venue de Jésus. 700 ans avant. Et à la venue de Jésus, elle s'accomplit parfaitement, puisque Marie était vierge, et c'est cet enfant-là qui a sauvé son peuple. Et même si aujourd'hui le nom d'Emmanuel n'est pas directement associé dans la parole à Jésus, n'est jamais écrit, Jésus n'est jamais appelé Emmanuel, ça a du sens pour nous. Dieu avec nous. Et puis, dans la suite de notre texte, on voit que Joseph, il obéit. Les versets 24 et 25, suite à cette petite encart historique, Matthieu nous dit, il revient au récit, et en particulier à la réaction de Joseph suite à cette annonce. Et encore une fois, le texte est très sobre. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né. En 2 versets, il nous raconte un bouleversement de vie total dans une famille. Très sobre. Une réaction incroyable de Joseph. Comme si c'était normal, comme si c'était simple. Alors moi, j'ai un petit peu réfléchi, parce que moi, ça m'a fait travailler, cette histoire. Remettons un petit peu les choses dans le contexte. Joseph apprend que sa femme est enceinte. Entre-temps, Marie a appris aussi qu'elle allait être enceinte. Elle part 3 mois chez Élisabeth. Donc quand elle revient, après 3 mois de grossesse, ça commence un petit peu à se voir. Enfin, je pense. Ça dépend des femmes. No comment. Mais quand même. Et puis voilà que Joseph, il reçoit ce message et il doit aller dire à sa famille et à la famille de Marie, écoutez, on va un petit peu avancer le mariage. Hein. On va se dépêcher un peu plus. On ne va pas attendre une année. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient fiancés, mais vous vous rendez compte un petit peu l'engagement, là ? Juste pour remettre les choses dans leur contexte. Enfin, c'est vrai qu'on lit ce texte super... Ouais, ok, super, cool. Joseph, il a fait ça, paf, paf, c'est fait. Non. Il y a un vrai engagement de la part de Joseph. Il prend au sérieux ce que l'ange lui dit. Et ça veut dire qu'il prend sur lui les regards des autres. Ah, ils se marient déjà. Ils sont pressés. Ah, il a dû se passer quelque chose. Ah, elle est déjà enceinte. Tu parles. Parce que comme dit, les secrets comme ça, ça ne reste pas longtemps secret. Il y a vraiment un engagement de Joseph que je trouve extraordinaire. Organisation d'un mariage précipité. Expliquer à la famille les raisons. Va expliquer qu'un ange t'a parlé pendant la nuit pour te dire que ta femme était enceinte par le Saint-Esprit. Engagement extraordinaire de Joseph. Et juste en quelques lignes, oh, il a fait, c'est normal. Moi, je trouve assez fort. Et je soulève ce point vraiment parce que on voit à quel point Joseph a pris son engagement à cœur. Et Marie, de son côté aussi. Marie, quand elle reçoit cette annonce du Seigneur, d'abord elle dit « Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que je sois enceinte ? Je n'ai jamais connu d'homme. » Ok, et l'ange lui dit « Ben, le Seigneur lui-même agira. » Quelle est la réponse de Marie ? « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Waouh ! Joseph, il entend la voix de l'ange, il entend le message qui lui est donné, il applique, il y va. Il ne remet rien en question. Extraordinaire. Alors ce récit que nous venons de voir ensemble, il y a deux choses extraordinaires pour moi. Il y a cette annonce de la venue du Messie, du Sauveur du monde, un passage extraordinaire, un des plus importants de l'histoire du monde, le plus important de l'histoire du monde après la création, l'annonce d'un Sauveur pour tous, au travers de Christ, au travers de Jésus. Mais en même temps, on a deux personnages simples, un homme et une femme tout à fait communs, qui vivent des choses extraordinaires, de manière très simple, naturelle. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Joseph, ok, il prend sa femme, il fait ce qu'il faut, et il s'engage. Et moi, ça me touche particulièrement, parce que souvent, je conteste ce que Dieu me demande de faire. Quand il y a des évidences, quand Dieu me demande de m'engager, j'ai parfois tendance à être un peu comme Moïse. Relisez les textes quand Moïse est appelé à servir Dieu. Oui, non, mais tu sais, Seigneur, je suis pas très bon, je n'ai pas trop parlé. Puis, ah oh, non, mais tu sais, ils ne vont pas accepter parce que voilà, ils ne me connaissent pas. Et puis, ils contestent. Et puis, ça dure un moment dans l'Ancien Testament, cette discussion entre Dieu et Moïse. Et il y a plein d'autres exemples, hein. Et moi, il y a plein de fois dans ma vie où je me dis, j'ai contesté avec Dieu parce que je n'avais pas envie. Seigneur, choisis-en un autre. Non, franchement, je ne suis pas la bonne personne pour faire ça. Marie, Joseph, ils ne font pas ça. Ok, on reçoit un appel, on s'engage. Et outre, comme je le disais, le fait que ça soit une annonce extraordinaire, l'arrivée du Messie... pour moi, ces deux personnages extraordinaires. Parce que Joseph, après ça, on n'en parle plus. Il n'y a que Matthieu qui parle de Joseph. Et s'il n'avait pas joué son rôle dans l'histoire, on n'en parlerait pas du tout. Mais son rôle, être le père adoptif de Christ, était hyper important. Et il l'a joué pleinement. Il a pris sur lui. Il s'est engagé. Alors je nous invite, nous aujourd'hui, à nous poser la même question. Quand on reçoit un appel de Dieu, quand on reçoit une demande du Seigneur de nous engager, qu'est-ce qu'on lui répond ? Comment est-ce qu'on lui répond ? Est-ce qu'on trouve des excuses ? Est-ce qu'on conteste ? Est-ce qu'on négocie ? Ou est-ce qu'on dit « Seigneur, ok, tu me le demandes, je le fais ». Alors bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. On n'a pas tous les jours un ange qui nous parle à l'oreille. N'empêche, quand Dieu nous demande de nous engager, comment est-ce qu'on lui répond ? Et cette question, je me la pose vraiment beaucoup. Même si je travaille à la Société biblique de Genève, que j'ai été missionnaire, que je me remets toujours en question par rapport à ça. C'est jamais acquis. Et des fois, ça coule de source, puis il y a des fois où on n'a vraiment pas envie d'y aller. Alors je nous encourage, au travers de ce texte, à essayer d'adopter cette même attitude d'humilité et de simplicité en disant « Ok, Seigneur, tu me le demandes, j'y vais ».